Je sais que vous aimez la poésie. Et ça tombe bien, j'en suis moi-même très féru.
Graffiti.
23h.
23h.
Minuit.
Minuit.
On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité. Et que l'humanité est faite de passion.
La poésie dans la nuit.
Avec Sylvain.
J'ai la poésie dans la viande. La poésie, je couche avec.
Ma bohème.
Ma bohème.
Bonsoir mes amis, bienvenue dans Ma Bohème, votre rendez-vous graffitiesque dédié à la poésie comme chaque troisième dimanche du mois de 23h à minuit et nous poursuivons notre quête de sens pour explorer ensemble ce qu'est la poésie. Aujourd'hui c'est au travers des arts, poèmes, chansons, cinéma que va transpirer la poésie. Nous allons évoquer un état que nous connaissons sans doute tous, la solitude. C'est une des caractéristiques du romantisme. On peut l'associer à une certaine mise à nu, une transition d'un état à un autre. On est seul et en principe le trépas est un passage que l'on affronte seul aussi. La solitude est parfois une chance car elle invite à l'introspection, la contemplation, la prise de conscience et elle facilite l'invention. Quoi qu'il en soit, qu'on la subisse ou qu'on la choisisse, elle s'avère nécessaire et salutaire, même dans un contexte de création. Par exemple, dans tout travail collaboratif en équipe, une première étape passe nécessairement par une réflexion individuelle. Nous allons nous pencher sur un aspect essentiel de la poésie. Comment passe-t-on de la solitude au partage. Allez, je vous lance pêle-mêle quelques fragments que nous allons aborder ce soir dans un condensé poétique. On va parler de moto qui rivalise avec un poids lourd, de divinité grecque, de barbatresse, de résilience, de jante féminine, d'amour secret à moitié inavoué, de yéyé mièvre, de gospel, d'allégorie, de toilette tokyoïte, de yaourt, de fin de vie, de komorebai, de léode et de serpent qui danse, rien que ça. Il y a une surprise aussi pour vous. J'ai eu la chance d'aller passer le week-end à Utrecht, aux Pays-Bas, dans le cadre d'un festival de musique, et j'y ai interviewé Dominique Leonetti, le chanteur solaire, un leader charismatique du groupe Lazuli. Une très belle rencontre, très spontanée, au sortir de son concert. On écoutera ça tout à l'heure. Pour l'instant, juste avant de s'intéresser au majestueux sonnet de Félix Arvers, plein de spleen et d'ironie, c'est notre poème du mois. Je vous propose de commencer avec une chanson très planante d'un groupe allemand de Fribourg. Il s'appelle There's a Light. Il existe une lumière. Et le titre, c'est Elpis, divinité grecque, fille de Nyx, la déesse de la nuit. Elpis, c'est l'allégorie de l'espoir. Si vous avez un casque à la maison, je vous conseille de l'utiliser les yeux fermés en vous concentrant sur votre troisième œil. Voici 3 minutes de méditation avec Elpis There's a Light dans Ma Bohème.
Your guiding light, from the
help is there's a light. L'espoir peut sans doute nous mener au bateau. Pourtant, le message de la chanson, c'est qu'on ne parvient à surmonter nos obstacles qu'avec de l'espoir. C'était sorti en décembre 2021 et si on recontextualise les choses, l'album For What Must We Hope a été délivré en pleine pandémie, période propice à la création artistique avec les confinements successifs qui nous ont isolés mais aussi reconnectés avec nous-mêmes. C'est un titre que je qualifierais de vainqueur, comme le dit si bien Baudelaire en 1853 en parlant du vin de Bohème dans son poème érotique Le serpent qui danse.
Jusqu'à minuit, ma bohème.
La lecture au coin du feu.
Est-ce que vous avez un poème préféré? Quelques vers que vous pourriez déclamer comme ça, de mémoire? En Angleterre, si on demande aux gens quel est leur poème préféré, on nous donne un titre sans trop de mal, et peut-être même qu'il y aura des récitations faites de tête par cœur. C'est une particularité que l'on ne trouve pas vraiment chez nous. Donc je vous propose d'y remédier avec une suggestion facile à mémoriser chaque début d'émission, notre poème du jour. Est-ce que vous connaissez Félix Arver? Probablement pas. Pourtant, il y a 200 ans, tout le monde en avait entendu parler ici. Si vos ancêtres étaient là, ils vous le diraient. Félix Arver, c'est un des poètes les plus populaires du 19e siècle en France. Intéressant d'ailleurs qu'il soit à moitié tombé dans l'oubli. En 1833... il écrit un sonnet. Un sonnet, c'est un petit poème classique de 14 vers, de quatrains, de tercets, dans un recueil poétique qui s'intitule « Mes heures perdues ». Belle question que celle du temps passé à écrire de la poésie. Est-ce vraiment une perte de temps? Aurait-on mieux à faire? Ce petit poème romantique que je vais vous lire, il l'écrit dans le cahier de sa fille au départ, la future Madame Ménessier. C'est lors d'une soirée qu'il l'a présenté, le poème, pas sa fille. Chez son ami Charles Naudier qui organisait les fameuses soirées de l'Arsenal, le succès a été immédiat. Ça évoque la souffrance muette du désir inavoué devant la beauté d'une femme qu'il côtoie mais qu'il ne saura jamais. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés et pourtant solitaire. Et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle suit son chemin, distraite et sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers, tout rempli d'elle, quelle est donc cette femme? Et ne comprendra pas. Félix Arver. Intéressant. J'adore cette histoire mystérieuse de flamme non déclarée et cette chute finale qui dévoile l'ironie de la situation. En fait, le poème s'adresse à une femme courtisée qui trouve ça beau mais qui ne se rend pas compte que ses vers lui sont directement adressés. Bon, le poème n'est pas très féministe, hein. Elle n'a pas l'air très dégourdie cette femme, elle est distraite, elle comprend rien à la situation, aux yeux du poète. Contrairement au narrateur qui, lui, a une vie pleine de mystères, tel un fantôme amoureux qui passe près d'elle, inaperçu. Ça m'intrigue tout ça. Est-ce une allégorie qui représente la gente féminine, toutes les femmes? Ou bien est-ce à prendre au pied de la lettre? Est-ce qu'il connaît quelqu'un en particulier et puis il aimerait bien que la personne s'aperçoive qu'il la désire? Il y a une troisième solution. Est-ce un message détourné de l'amour innocent, inconditionnel d'un papa pour sa fille? Bah oui, après tout, il l'a bien écrit dans le cahier de sa fille, ce poème. Bon, c'est du sonnet, c'est très propre dans la forme, la rime est impeccable, mystère fait écho à se taire. Rien su, ça rime avec inaperçu, tendre et frère jumeau d'entendre, et fidèle, la sœur jumelle d'empli d'elle. C'est bien goupillé. Mais avant tout, ce sonnet, pourquoi il nous parle? Parce qu'on se souvient peut-être qu'un jour, on a ressenti cette émotion forte, cette attirance irrépressible pour une personne que l'on croise régulièrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est le côté poétique de la situation. La naissance d'un sentiment amoureux, cette folie innocente. L'amour est un oxymore, l'association heureuse de deux contraires. Ce chaud-froid, cette douce violence à la fois douloureuse et délicieuse. Le sonnet de Félix Arver a aussi été adapté en chanson, la thématique de l'amour inavoué ou de l'ode à la gente féminine, c'est assez classique dans la chanson française. On a bien entendu eu Georges Brassens qui, en 72, dans Les Passantes, s'adressait à toutes les femmes qu'on aime. Mais ce que je vous propose là, c'est d'écouter Serge Gainsbourg lui-même, qui a mis le sonnet en musique. Il considérait à tort, selon moi, que la chanson était un art mineur comparé à la peinture, mais aussi à l'écriture. Je vous propose de vous en faire une idée avec un titre rare, le sonnet d'Arver, qui fait partie de son troisième album, c'est le dixième titre. Et son troisième album s'intitulait L'Étonnant, c'était sorti en 61.
Ma vie a son secret, mon âme a son mystère. Un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire. Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu. Toujours à ses côtés, pourtant solitaire. Et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre. N'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoi que Dieu l'ait faite tout s'étendre, elle ira son chemin distraite et sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers tout remplis d'elle, quelle est donc cette femme et ne comprendra pas.
C'était Françoise Hardy en 1962, on vient de tourner la page yéyé de l'émission. Certains pourraient évidemment trouver ça un peu ringard, mais j'assume. Ceux qui ont vécu dans les années 60 comprendront et sont sensibles à toutes les émotions qui ressurgissent à l'écoute de cette chanson. Et derrière les paroles d'apparence mièvre ou superficielle, tous les garçons et les filles de mon âge connaissent l'amour et pas moi, il y a malgré tout, je trouve, l'expression très juste d'une mélancolie face à la solitude. D'ailleurs, elle répète « Je vais seul, l'âme en peine, je vais seul car personne ne m'aime ». Je trouve que c'est une belle ironie pour l'une des plus belles femmes du monde d'aller chanter sur scène que personne ne l'aime, mais apparemment, elle n'était pas consciente de son extrême beauté. Je sais que lorsque sa tournée était passée par Londres, les Anglais en étaient tous tombés fous amoureux. Le point commun avec la chanson de Gainsbourg, c'est l'impossibilité de communiquer qui nous plonge dans la solitude et la mélancolie. Et ça c'est un état d'esprit qui est favorable à l'écriture de textes exprimant les passions les plus folles.
Jusqu'à minuit,
ma bohème.
On peut tout faire, vous savez. On peut tout faire. Ce qui est important, c'est de ne pas tricher et de continuer à être amoureux.
La poésie dans la nuit.
De ne pas cesser de croire.
Je suis récemment allé au festival Midwinter Prog à Utrecht pour y voir quelques 5 concerts le même jour, Mir, Temik, Lazuli, Spocksbeard et Pain of Salvation. Sur tout ce que j'ai vu, c'est de loin Lazuli que j'ai préféré et comble de bonheur, c'est le seul groupe français du lot. juste après son concert, j'ai vu son leader, Dominique Leonetti. Il est passé pas très loin de moi. Alors j'ai couru derrière lui pour aller lui parler. On s'est vite retrouvé parmi un flot d'admirateurs qui voulaient lui témoigner leur amour et qui voulaient un selfie ou bien se faire dédicacer à un disque. Je lui ai demandé s'il avait quelques minutes à m'accorder pour une interview et il m'en a accordé en fait une vingtaine. Il s'est montré généreux en confidence, il était très ouvert et voici comment a démarré notre conversation.
Et bonsoir, salut.
Je ne t'avais jamais vu en concert, je sais que ça fait quelques années que tu fais des festivals, ça fait combien de temps exactement ?
Oh là, je crois que le groupe date de 1998, je te laisse faire le calcul. Les premières années étaient difficiles, hein, donc là ça doit bien faire au moins une quinzaine, une vingtaine d'années que les choses se passent bien.
Il y a eu des ovations. Ce soir, là, je t'ai vu, j'ai adoré, j'ai même eu les larmes aux yeux. Il y a eu de l'émotion. Comment est-ce que tu expliques le contact particulier que tu as avec le public ici ?
Alors, j'aimerais te l'expliquer. Je n'ai pas véritablement la réponse non plus. Je suis tout autant surpris que toi de voir l'accueil que nous réservent et les Pays-Bas et tous les pays étrangers, en fait, dans lesquels on passe, notamment l'Allemagne ou l'Angleterre. J'ai vraiment du mal à saisir comment ça se fait qu'on a cette cote d'amour.
Tu n'as qu'une seule date en France en 2024, en octobre ?
Ah non, j'ai trois. Elles sont très rares. On joue plus souvent en Allemagne ou en Angleterre.
Où est-ce que tu vas passer alors cette année en France ?
En France, alors, on sera à côté de Lyon, à Villeurbanne, en juin. En juillet, on est à Épinal. Et en octobre, on est à Pierre, dans la région, dans la Beauce.
Toi, tu viens de Nîmes ?
Oui. Par les départementales hier.
En ce moment, il y a des petits problèmes pour circuler avec les agriculteurs qui sont mécontents.
Oui.
Combien de temps tu as mis pour venir à Utrecht ?
Eh bien, écoute, je soutiens les agriculteurs, donc je vais pas râler. Mais on a quand même mis 20 heures pour venir à Utrecht. Et c'était très long. Par les départementales et les nationales,
Voilà,
ça se mérite. Hein. Donc, on apprécie encore plus le concert, le fait d'être arrivé. On n'était pas certain d'arriver à la base.
J'ai été très impressionné par la qualité de ta prestation sur scène. T'es très généreux, tu ris beaucoup, tu souris. On sent qu'il y a une osmose, une très bonne entente avec Arnaud notamment.
Ouais.
C'est un exemple, il y en a d'autres. Il y a ton frère aussi avec qui tu joues.
Claude, qui est à ma droite sur scène, oui.
Comment s'appelle l'instrument qu'il joue d'ailleurs, ton frère ?
Ça s'appelle la Léode.
La Léode ?
Oui, alors je dis là parce qu'en fait, il n'y en a qu'une.
Elle a été fabriquée pour ton frère.
Voilà, c'est un instrument qu'il a inventé. Pour la petite histoire, suite à un rêve, il y a de nombreuses années maintenant, il y a eu un accident de moto à l'âge de 17 ans. On jouait déjà ensemble puisqu'on a commencé à faire de la musique, nous, à nos 13-14 ans. On a monté notre premier groupe ensemble. Et lui était guitariste à l'intérieur du groupe. Et à 17 ans, tout s'est arrêté pour tous les deux parce qu'il a eu cet accident. Voilà, il a voulu rivaliser avec un poids lourd, donc moto poids lourd. En général, le poids lourd gagne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il a perdu l'usage d'un bras.
Il a montré de la résilience puisqu'il a trouvé un moyen de malgré tout continuer à faire de la musique.
Oui, c'est exactement ça.
Pourquoi la Léode ?
Alors la Léode, c'est une contraction de notre nom de famille, Leonetti, et de son prénom, Claude.
C'est une invention familiale.
Il est venu me voir un matin en me disant, voilà, j'ai fait un rêve. Et il avait griffonné plein de trucs, tout un cahier des charges, il avait fait des dessins, même esthétiquement, pour te dire jusqu'où il était allé. Et à partir de là, effectivement, il s'est dit, bon, mais voilà, ça va rester qu'un rêve. Il voulait à tout prix retrouver les sensations qu'il avait à la guitare. Alors il s'était mis au clavier, il faisait, pour pallier au manque de sa main gauche, il avait un pédalier basse, mais rien ne pouvait remplacer les sensations qu'il avait avec la guitare.
Et vous êtes allé voir un luthier, c'est ça ?
Mais la seule chose dont je peux me targuer, c'était le fait de lui avoir dit, mais ton idée, elle est géniale, vas-y, fonce, et je pense que tout seul, peut-être, il faut toujours que quelqu'un, c'est un peu comme les attentats, c'est-à-dire qu'un mec tout seul passe jamais à l'action, en fait, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui crédite son truc, alors là, en l'occurrence, c'est pour une belle chose à laquelle j'ai participé.
En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une super entente, vous chahutez même entre vous, avec Arnaud, sur le xylophone, sur le morceau final, avec Here Comes the Sun, je crois, hein. C'était une très belle version, c'était émouvant, et vous vous titillez, là.
Oui, je sais qu'à un moment donné, il va m'arriver quelque chose. Il a tendance à me faire ça régulièrement, mais je sais jamais à quel moment ça arrive.
Les gens rient beaucoup, ils ont beaucoup de sympathie pour le groupe.
Ouais.
Et pour la barbe, parce que moi je me la fais pousser. Comment on fait pour continuer à faire des tresses alors que les premières sont en fait, il faut tout défaire.
Je défais quand je prends ma douche en fait.
Ah, ça se défait facilement.
Ouais. Alors là, tu vois, j'ai même pas besoin de mettre un élastique ou quoi que ce soit. Non, je détresse. C'est, alors, je t'avouerai que c'est de plus en plus long de tresser, détresser. Je crois que j'ai dépassé les 30 cm, mais...
Si je parle de ça, c'est que dans un de tes clips, on te voit de profil, en train de chanter, des deux profils d'ailleurs, en même temps.
Oui, parce qu'en fait, la chanson en question, c'est qui l'autre que l'autre. Et c'est une chanson qui parle de racisme. En fait, pour moi, c'est que je me suis mis, en gros, dans la peau de racisme. En fait, le mec que je suis dans la chanson a peur de devenir l'autre à son tour. Le racisme est de partout et peut se retourner contre toi aussi. C'est pour ça qu'il y a ces deux visages.
Ce clip-là, il te montre, mais à un moment où tu n'avais pas cette barbichette, tu avais les poils plus courts.
Alors, non, mais je sais pas si je l'avais pas mis derrière l'oreille.
Ah, d'accord, parce que l'effet scénique donnait l'impression que c'était du direct, que tu étais filmé au moment où tu chantais, parce que tu chantais exactement.
Oui, on le fait en synchro.
En synchro ?
Ouais.
Je me suis laissé prendre et après je me suis rendu compte comme ça se confondait, que c'était fait en avance.
Oui.
Et on avait l'impression que c'était fait sur scène au moment où on se regardait.
Eh oui, parce qu'en fait, normalement, si je me gourre pas dans les paroles...
C'est très synchro.
Est-ce
que t'as un retour ?
On envoie un clic. Et on démarre en même temps que la vidéo qu'on balance, en fait.
Ok.
Ça peut être très délicat parce que tu es obligé de rester sur le tempo, sur le clic. Mais on a tellement pris l'habitude de ce genre de choses où il est nécessaire d'avoir de la synchro comme ça avec des images. Ça donne cette précision. Mais en fait, on s'est aperçu que c'est maintenant quelque chose qu'on oublie totalement. C'est-à-dire qu'il y a ce clic, mais il est totalement intégré.
C'est au tout début, c'est ça, hein. C'est comme un clapet quand on veut tourner un film.
Alors, sur ce titre-là, il est tout le long de la chanson à l'oreillette. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas jouer avec des clics comme ça se fait souvent en studio parce que ils ont peur. Ça enlève de la vie.
En tout cas, nous, on l'entend pas. Il est inaudible pour nous.
Il est inaudible, voilà. Il est que dans nos retours.
Bon, ça, c'était le petit détail technique.
Voilà. C'est le petit détail technique. Effectivement, sans ça, tu n'as pas la possibilité de faire cette synchro à ce point.
Et... qui était impressionnante.
Ça fonctionne.
Ouais,
et moi, je tourne le dos à cette. Alors, bien sûr, quand on les fait, je les vois. Mais le rendu, je l'ai jamais. On a le dos tourné à notre écran.
Faudrait que tu te fasses filmer. Mais tu t'es fait filmer ce soir.
Alors, il y avait effectivement des caméras.
J'ai trouvé très poétique le concert. Pas que les paroles, mais le concert dans son ensemble, les images qui étaient projetées. On voit notamment à un moment donné, il y a une chanson qui parle de bouteille à la mer. Oui. Une chanson, c'est un peu comme une bouteille à la mer.
Ouais.
Bon, c'est très métaphorique. Et en même temps, on a les paroles qui sont affichées devant le public pour qu'on puisse chanter en même temps. On a l'impression d'avoir un poème face à soi.
Ouais.
C'est de la poésie. On voit un poème se dérouler, disparaître en plus de manière très onirique.
Ce que j'avais imaginé, c'était que les mots étaient des vagues.
Des ondes.
Des ondes. Exactement.
Ce rapport à la poésie, quel est-il ? Est-ce que ça a toujours été là ?
J'ai l'impression, de aussi loin que je me souvienne, j'ai une certaine mélancolie qui est en moi et qui me pousse. Oui, j'ai tendance à aimer traduire les choses comme ça, plutôt que des choses crûment.
Qu'est-ce que c'est la poésie pour toi, Dominique Leonetti ?
C'est une façon de voir la vie. Grande question.
C'est pas que des poèmes. C'est pas que des poèmes, la poésie, hein. La poésie, elle est partout.
Non, oui, tu as raison. C'est que, comme tu disais, elle se retrouve dans les images aussi. C'est une façon de voir la vie.
Ta manière de chanter, elle est poétique.
Je ne calcule absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui vient.
Excuse-moi, j'espère que tu vas pas mal le prendre si jamais je te dis à qui tu me fais penser.
Ah non, je t'en prie.
Il y a des consonances de Christophe, le chanteur. Je pense aussi à Rush, le groupe canadien.
Oui. C'est marrant parce que tu es pas le seul. De temps en temps, j'ai ce retour-là, et de Christophe, et du chanteur bassiste de Rush. Étrangement, Rush, j'ai un petit peu écouté dans ma jeunesse. Ce qui est marrant, c'est que j'ai ma femme qui s'appelle Aline. C'est le seul point commun que j'ai avec Christophe, véritablement. Mais il doit y avoir de ça, je pense, parce que, alors, il y a la tessiture de la voix, je pense.
La tessiture, un petit peu androgyne.
Ouais, il doit y avoir
de ça, effectivement. Mais souvent, on me le dit. Et Christophe, je pense que c'est un poète, effectivement.
Après, tes paroles à toi, dans tes chansons, sont super poétiques. Quoi. Moi j'ai envie de les étudier. J'ai ressenti ton concert de ce soir comme un recueil. C'est-à-dire que toutes tes chansons n'apparaissaient pas sur le grand écran, mais lorsqu'elles apparaissaient, on avait franchement l'impression que c'était plusieurs poèmes qui s'enchaînaient.
J'écris les textes avant d'écrire la musique, donc je me suis aperçu qu'au fil du temps que les mots avaient une musique. Et quand j'écris, il y a une sorte de musicalité qui se met dans les mots, une sorte de flow. Ça ressemble à de la poésie, effectivement. Si un texte ne me satisfait pas comme ça quand je le lis, c'est que je pourrais pas en faire une chanson. Je sais que la plupart des groupes de rock ne travaillent pas comme ça, ont tendance à travailler avec du yaourt à la base, ce qu'on appelle dans notre jargon. Ça part souvent d'un riff, c'est la musique qui est là, et la première version du chant est souvent un yaourt, et c'est vraiment pas du tout comme ça qu'on fonctionne. fonctionne en fait. Il y a d'abord des mots. Ils ont une vie déjà tout seuls, je pense, et une certaine, enfin, j'espère une certaine musicalité. En tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir ce flow quand je lis ce que je viens d'écrire. Et puis souvent, je choisis pas un sujet aussi. Donc, il y a peut-être que ça pousse aussi la chose à avoir peut-être de la poésie, c'est que j'ai tendance à les choses viennent un peu instinctivement.
Tu dis que tu démarres des mots, mais est-ce que c'est toi seul qui choisis les mélodies derrière ou bien vous êtes plusieurs à chercher ?
C'est un travail assez solitaire. Je suis tout seul à faire ça dans le groupe. On a vraiment pris cette habitude-là.
Tes harmonies, elles sont poétiques elles-mêmes. Elles touchent des cordes sensibles, elles éveillent des émotions. J'ai eu les yeux mouillés en t'écoutant. Je crois que je suis pas le seul. Ça a très très bien fonctionné ce soir.
D'abord, ça me touche beaucoup que tu dises que tu as les yeux mouillés. Pour moi, ça fait partie des plus beaux compliments qu'on puisse faire. Je suis toujours effaré qu'après un concert vienne me dire voilà, j'ai eu les poils ou souvent on voit des larmes face à nous et je sens que j'ai du mal à me contrôler. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, sincèrement. Quand tu mets tellement de toi, quand tu écris, quand tu poses tout,
on ressent ta passion non seulement sur scène, dans tes mots, dans tes mélodies. Elle est partout, ta passion.
Ouais, c'est ma vie. Et même les moments où j'ai douté, parce que c'est une route qui est difficile. La musique, c'est très compliqué d'arriver à pouvoir vivre de sa passion. On a la chance d'y arriver. Il y a eu des moments de déception quand il y a des versions du groupe qui ont splitté, ou il y a eu des histoires comme ça par le passé, où tu as envie de baisser les bras. Pour te dire, les moments où je dis, bon, ben, peut-être que ça veut dire qu'il faut arrêter maintenant, il est temps peut-être de passer à autre chose. Ma femme m'a systématiquement dit, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Elle m'a fait prendre conscience en fait que c'était.
Ce sont tes ondes à toi.
Ouais. Ben avec mon frère, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, notre premier groupe, on a commencé, on avait 13-14 ans.
Il y a Vincent à la batterie aussi.
Ouais, ben qui est juste là d'ailleurs, tiens, voilà.
Qui est exceptionnel. Hein.
Ah ouais. Alors, c'est pas comme mon batteur, c'est un super gars aussi. On est tous des frangins. J'ai un vrai frère, j'en ai trois autres dans le groupe. Et Vincent fait partie de ceux-là. C'est un excellent batteur, mais qui le sait pas. Il est très modeste en fait. Et moi, je sais que j'ai de la chance de pouvoir partager la scène avec quelqu'un comme lui.
Finalement, tu viens de l'employer le mot. C'est le partage. La poésie, c'est le loisir de pouvoir partager ce qui nous passionne.
Ouais, tu as raison. C'est une bonne analyse. Ouais.
Écoute, merci beaucoup. Mon émission qui s'appelle Ma Bohème.
Ma Bohème, ok. Je comprends que tu trouves de la poésie. J'ose pas dire que c'est de la poésie.
Y en a,
voilà, si je préfère.
C'est très poétique ce que tu fais.
Ça me fait plaisir.
Ton concert était poétique.
Je suis très touché que tu l'aies senti, mais je comprends aussi pourquoi tu l'as senti aussi. Voilà. Je pense que tu es sensible à ça.
J'essaie de comprendre ce que c'est que la poésie et là je la vois. Dominique Leonetti, merci beaucoup.
Merci, ben, écoute, merci à toi, Sylvain.
Et voilà, c'était ma rencontre aux Pays-Bas avec Dominique Leonetti, auteur, compositeur, chanteur, guitariste et bien sûr leader du groupe Lazuli. On en reparle juste après cette courte pause musicale. Je vous propose d'écouter Je te laisse ce monde, extrait justement de l'album 4603 battements de Lazuli. C'était sorti en 2012. On y va.
Nier l'évidence de la répétition, de nos incohérences. Le temps est un tiroir, l'homme y range les blessures de l'histoire, l'histoire d'être sûr, de s'endormir en paix, sans regret, sans remords, et pouvoir récidiver demain encore.
Je te laisse ce monde de Lazuli. Alors, quelques remarques ultimes sur mon entretien avec Dominique Leonetti, le chanteur de Lazuli. Je garderai en tête son analyse selon laquelle les mots sont des ondes. Ils ont une musicalité, un flow, une vie qui leur est propre. Ils sont autonomes, ils se suffisent à eux seuls. Dominique ne choisit pas ses sujets, ils lui viennent en tête comme ça, involontairement. La poésie, c'est une façon aussi spontanée de voir la vie, c'est une force mélancolique qu'on a en nous et qui nous pousse à traduire le monde de manière colorée plutôt que crûment. J'adhère totalement à ce point de vue. Autre aspect intéressant, le travail d'écriture. C'est une traversée en solitaire, j'aime bien l'idée. Et puis, on ne se connaissait pas et il m'a quand même confié avoir traversé des moments difficiles. Et ce que je retiens de lui, c'est qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il ne faut pas s'avouer vaincu, même dans les situations les plus inextricables. Il a la foi dans sa famille, son frère Claude en particulier, qui est un bel exemple de résilience. Petit rappel sur ce qu'est la résilience et la capacité à surmonter les pires chocs traumatiques afin d'apprendre à composer avec, pour vivre peut-être plus sereinement après. C'est Boris Cyrulnik qui a vulgarisé le terme dans les années 90. Il fallait que Claude, son frère, donc, trouve un moyen de continuer à jouer de la musique avec un bras en moins, et et puis il se met à rêver son instrument, et c'est peut-être ça la poésie, l'audace de rêver sa vie pour reconstruire son monde. On va d'ailleurs tout de suite enchaîner avec « Je te laisse ce monde ». Non, pas « Je te laisse le monde », ça on vient de l'écouter, mais justement, dans la même veine, il y aura donc « Un monde nouveau » de Feu Chatterton, et puis ce sera suivi de « Dominique A », « Reflet du monde lointain ». Ça devrait bien aller ensemble tout ça.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule et dévots, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mauvais traits d'esprit. Serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains?
Zéro, attraper le Bluetooth.
Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Crépuscule, sorti d'immeubles ou d'entrepôts. Des corps agités se bousculent tout autour de tables de jeu. Ils questionnent tous les possibles, les cartes flambent dans leurs yeux. De regarder les autres vivre vous ôte parfois tous les mots. Derrière tout ça, si on savait. Combien de vagues et de regrets, des nuées d'intentions sommeil, peut-on ne pas les réveiller? Peut-on renoncer à l'envie de défendre une grande idée? Plus haut des planètes s'inquiètent, on y a entendu. Armageddon est en retard, mais il ne devrait pas tarder. Si au final on décomptait toutes les vagues, tous les regrets. Mais non, pas de marée, des pensées sans aller-retour. Non, pas de nausée, pas de doute et pas de détour. Chaque jour c'est un miracle, l'aube accepte de se lever. tant de raisons de n'en rien faire, rien qu'à nous voir nous activer, que des brumes providentielles fassent de nous des innocents. Il n'est pas d'affaires humaines qui ne rendent grâce aux paravents. Si au moins tout ne reposait, que sur des vagues et des regrets. Mais non, pas de marée, des pensées sans aller-retour. Non, pas de nausée, pas de doute et pas de détour. Non, pas de marée.
Les vagues et les regrets, Dominique A, chanteur staccanoviste, c'est-à-dire prolifique, s'adresse à un constat sur le côté irréversible du monde. C'était sorti en mars 2023. Il y a un très bel article des Inrock qui encense son élégance.
23h.
Minuit. Ma bohème.
L'objet poétique du mois.
Rimbaud, s'il était là, il chanterait du hard rock. Je crois que ce serait un poète de hard rock.
Oui.
L'objet poétique du mois est un DVD qui sort le 4 juin prochain, Perfect Days de Wim Wenders. J'ai vu le film en salle lorsqu'il est sorti en octobre. C'est un film d'une délicatesse divagante et à grande force de hantise, puisqu'on peut y repenser encore des mois après l'avoir vu. Les ombres deviennent-elles plus sombres en se chevauchant? Il y a tant de choses que j'ignore, encore, et ma vie s'achève déjà. Cette question existentielle qu'on entend dans le film cache sans doute une autre réalité que ce qu'elle dit simplement. On devine une métaphore, mais de quoi? Quelles sont ces ombres? Est-ce la mort que chacun porte en soi? Ou bien l'ombre de ces deux hommes sur la même femme qu'ils aiment? Le personnage principal rétorque « Si rien ne change, alors c'est absurde ?» Cette remarque énigmatique nous enseigne peut-être qu'à travers sa routine quotidienne d'homme célibataire, il croit à la félicité des petites variations. Le statu quo serait pour lui un non-sens. Le personnage qui pose la question a un tout petit rôle dans le film. On sait juste qu'il souffre d'un cancer et qu'il se sait condamné. Il a une conversation sur la vie avec le personnage principal au bord d'un fleuve, de nuit, dans le centre-ville de Tokyo. Ils se mettent à fumer des cigarettes pour s'étourdir, à boire des bières pour noyer leur désœuvrement. Le personnage principal, Hirayama, joué par Koji Yakusho, est tout simplement mutique. C'est déroutant comme rôle, quand on y pense. Et en plus, il a reçu le prix d'interprétation du Festival de Cannes 2023, il y a un an. Ça montre que le métier d'acteur, finalement, c'est pas seulement déclamer du texte, hein, c'est un regard, une attitude, une aura. Hirayama vit dans le retrait par rapport aux autres, mais aussi la contemplation, le silence. Ah oui, tiens. Et si pour saisir la beauté qui nous entoure, il fallait tout simplement qu'on apprenne à se taire. Là, comme ça. Pourquoi voir le film Perfect Days? Eh bien, parce que c'est simplement beau. Il montre que même le quotidien d'un nettoyeur de toilettes tokyoïte peut contenir de nombreux moments poétiques. Sa vie est ponctuée par ses lectures quotidiennes et guidée par la musique qu'il écoute sur des vieilles cassettes audio. Il nous passe du Lou Reed, justement Perfect Day, d'où le film tire son nom d'ailleurs. Il y a du Nina Simone, il y a du Otis Redding, bref, toutes sortes de pépites qui anoblissent l'existence. Chaque midi, ce monsieur Hirayama mange sous les arbres, les prend en photo avec son vieil Olympus. Ce film est une ode à l'ancien. Comme s'il fallait peut-être suivre son exemple, on devrait peut-être plus souvent contempler la nature, comme lui qui cultive les bonsaïs. On devrait aussi laisser le bien-être de la grande musique diluer dans nos corps, apprendre à prendre son temps, apprécier ce que les gestes répétitifs du quotidien nous apportent. En gros, on devrait peut-être plus souvent sourire à la vie. Le film aborde la question du sens du travail. Hirayama est un travailleur de l'ombre méticuleux qui aime que les tâches soient bien effectuées. Ça nous dépeint le côté essentiel de ces métiers souvent méprisés, qui contraste avec le dégoût des autres, dont sa propre sœur, transfuge de classe, qui appartient désormais à une autre classe sociale, plus haute, mais pas forcément plus raffinée. Et si la profondeur de l'existence se trouvait ailleurs que dans son compte en banque ou sa position sur l'échelle de la société? Pourrions-nous donc tous atteindre la félicité rien qu'en ouvrant les yeux, en tendant l'oreille? Au Japon, il existe un mot poétique, le komoraibi. C'est lorsque la lumière filtre à travers les feuilles des arbres, et le film est souvent ponctué de ces moments de komoraibi. Lorsqu'une nuit passe, par exemple, ça donne un effet artistique assez fascinant, et puis ça pose l'attention sur l'essentiel, la nature. Wim Wenders, qui est allemand d'origine, s'initie à un film japonais qui nous enseigne le mantra en japonais. Atono kotoa, atono koto, imano kotoa, imano koto. Ce qui arrive plus tard, ce qui arrive maintenant, c'est maintenant. On comprend qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Le reproche qu'on peut sans doute faire à ce film, dont on pourra traduire le titre par « Des jours parfaits », c'est justement la succession des jours qui se ressemblent. Le film se montre assez répétitif, mais bon, la répétition, c'est aussi un aspect nécessaire de la poésie. L'effet d'anaphore, d'ailleurs, la succession de points qui crée la continuité, c'est poétique en soi. Et ça évite les clichés aussi. Ce qu'il faut retenir du film, c'est le bien-être que la poésie peut faire émerger dans la vie. C'est là, à la portée de tous. C'est gratuit, à nous de la saisir. Un peu de folk pour se faire du bien. Ben Harper va vous confier son rejet de la solitude dans I Shall Not Walk Alone. Vous écoutez Ma Bohème, un brin de poésie dans la nuit.
Better than torn. Still I can see the light. Tattered and worn, but I must kneel to fight. Friend of mine, what can't you spare? I know sometimes it gets cold in there. When my legs no longer carry, and the warm wind chills my bones, I reach for Mother Mary, and I shall not walk alone.
You spend all. 'cause it's only fair. It's love and war, and darkness is all you'll ever know if I don't love you more.
Matt Corby qui interprétait Big Eyes en compagnie de la chanteuse Brie Tranter. Ils sont tous les deux australiens et c'est un pur instant de lévitation poétique. Pour revenir un petit peu sur les paroles de cette chanson, Big Eyes, elle semble dépeindre une personne en lutte contre ses démons intérieurs et qui est confinée dans une vie d'isolement et dans l'obscurité. Quelqu'un d'épuisé. Les paroles « With all the time you spend alone » elle souligne la solitude que la personne ressent et puis son incapacité à se connecter aux autres. Elle se sent piégée en quelque sorte. Elle mène une bataille contre le monde qui l'entoure. C'est peut-être un appel à ceux qui luttent pour leur santé mentale. Il faut oser aller chercher de l'aide pour ne pas rester seul à souffrir.
Ma bohème.
L'homme est un peu fait de réalité, le plus charnel et en même temps de poésie, parce que la poésie fait partie de la réalité.
Quelles sont les nouvelles autour de la poésie à La Roche et ses environs ? Eh bien, tout d'abord, à l'occasion du Printemps des Poètes, dans le cadre du projet Une ville en poésie, n'oubliez pas que la mairie de La Roche-sur-Yon lance un appel à texte sur le thème « Un état de grâce ». Il vous reste un peu moins de 2 semaines pour envoyer vos poèmes à l'adresse suivante unevilleenpoesie.mag@larochesuryon.fr. C'est jusqu'au 31 mai. Plus de détails si vous googlez La Roche-sur-Yon, appel à texte. Ensuite, jeudi prochain, le 23 mai, le thème des lectures poétiques organisées par Francis Lamperrière, qui auront lieu au restaurant Chacun sa part, comme chaque jeudi, de 15h à 17h, eh bien ce sera l'air libre. Le week-end du 25 au 26 mai, attendez-vous à une belle programmation en perspective à la Cocotte solidaire et à la Maison de l'Erdre, sur l'île de Versailles, à Nantes, dans le cadre du festival de poésie « Les mots à la bouche ». Sur le bateau de Sarah, il y aura des ateliers d'écriture avec des poétesses, Rabia Dassin puis Mélanie Leblanc l'après-midi. Plus d'infos en allant voir le collectif Louvre-Boîte sur Facebook. Le dimanche 26 mai, il y aura des animations au Champ 24 sur la route des Sables. Il y aura des impromptus et des lectures poétiques à deux. Le 2 juin, il y aura un salon du livre à Saint-Hermine avec des ventes de recueils de poèmes. Allez-y. Le samedi 8 juin, dès 8h du matin, il y aura un spectacle avec petit déjeuner au quartier Liberté. L'après-midi, il y aura des ventes de recueils avec l'association lyonnaise Eugénie Création qui a maintenant une dizaine d'années. Et le soir, il y aura des lectures de textes au bar Les Chouans à La Ferrière. Et je termine l'agenda d'aujourd'hui avec la lecture d'un texte du second recueil de Philippe Bataille intitulé « De blanc et de bleu ». Très beau livre qui se dévore, des éditions Le Jarosset, disponible entre autres à la librairie Agora au prix de 12 euros, illustré de très belles aquarelles réalisées par Thibaut Guillet. Ça vient clôturer notre réflexion du jour sur la solitude. Seul. Au restaurant, seul, au milieu des autres, elle est merveilleuse, cette langue inconnue qui remplit toute la salle. Les mots ne me parlent pas. Les voix n'invitent pas à la réflexion. Elles sont un bain sonore. Elles offrent les variations d'un torrent qui dévale la montagne. Son cours tumultueux et ses instants de l'eau captivent du creux d'un rocher. Un murmure qui cherche à crier. Ma bohème touche à sa fin pour ce soir. Si vous souffrez de la solitude, consolez-vous en vous disant que c'est toujours mieux que de partager sa vie avec quelqu'un de toxique. Accrochez-vous au beau et lâchez du lest en lâchant le lait. On se retrouve le dimanche 16 juin à 23h pour notre prochain rendez-vous. On parlera notamment de BD. Mon invité, ce sera un auteur surprise. Je n'en dis pas plus à ce stade. Le podcast de l'émission reste disponible sur le site urban-radio.com. Ouvrez grand les yeux pour apprécier la poétique du monde. On termine notre voyage à travers les profondeurs des mondes poétiques. Voici sillonner des océans de vinyle, de lazuli, tout un poème. Et si vous ne connaissiez pas le groupe, j'espère que vous allez vite combler cette lacune en les plébiscitant et en devenant les fans. À plus, portez-vous bien, soyez même votre meilleur support.
Océans de vinyle, des marées noires et des mers d'huile, se livrer aux angles saillants, des saphirs et des diamants, s'abandonner au tourbillon, à la belle rotation. Dans la ronde infinie, dans le puits sans fond, et puis 33 tours. Saillant des saphirs.